Lizzie présente Cadeaux inestimables de Daniel Steele, lu par Marie-Laure Douniac. À mes enfants merveilleux et aimants, Beatty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Vous êtes les étoiles les plus étincelantes de mon firmament. Vous êtes mes espoirs, mes rêves, mes souvenirs les plus précieux. Ma source d'amour, de rire, vous êtes ma joie, ma vie. De tout mon cœur et avec tout mon amour, maman. Daniel Steele. À John, pour nos enfants merveilleux, nos années de bonheur, les meilleurs de ma vie, pour les souvenirs que je chérirai à jamais et tous ces cadeaux que je te dois. Avec tout mon amour, Olive. Et en souvenir affectueux de Sammy Ewing, ami adoré, garçon spécial, tu vas tant nous manquer. Pour toujours dans nos cœurs, continue à danser parmi les étoiles. Avec mon amour éternel, Maman Noire. Chapitre 1. Timmy Parker était assise derrière son bureau, une jambe repliée sous ses fesses. Lorsque la tension de la matinée s'était accrue, elle avait négligemment attaché ses longs cheveux blonds à l'aide d'un élastique en caoutchouc. À midi, 4 crayons et un stylo complétaient sa coiffure. Timmy portait par-dessus son débardeur une chemise à carreaux propre mais froissée dont elle avait retroussé les manches, un jean troué et des converses montantes. Elle n'était pas maquillée. Grande et mince, elle avait hérité de la silhouette élégante de son père. Pieds nus, elle mesurait 1,80 m. La jeune femme était âgée de 29 ans et avait obtenu son diplôme d'assistante sociale à Columbia. Elle travaillait pour une fondation dont la mission était de trouver des logements gratuits ou à loyer très modéré pour des sans-abri de New York. Timmy était installée derrière son bureau depuis 6 h du matin, car elle avait fort à faire. Une montagne de dossiers trônait sur sa table. Elle aurait aimé pouvoir proposer un toit à chacune des personnes qui venaient la voir. Elle savait qu'avec de la chance, et en harcelant sans relâche les agences gouvernementales et autres organisations que sa fondation avait l'habitude de solliciter, elle dénicherait un foyer pour quelques-uns des candidats au logement parmi ceux qui étaient qualifiés d'éligibles, une expression fourre-tout permettant d'éliminer les individus qui en avaient le plus besoin. En ce mois de juillet, la chaleur était étouffante et, comme d'habitude, l'air conditionné ne fonctionnait pas. Timmy sentait que cela serait l'une de ces journées où rien ne marcherait vraiment comme elle le voudrait. Elle avait déjà annoncé de bien mauvaises nouvelles à certains de ses cas les plus désespérés. Briser des cœurs faisait partie de son quotidien. Les injustices du système, terriblement inefficaces lorsqu'il s'agissait de secourir les plus démunis, l'indignaient. Timmy était une personne dévouée et bienveillante. C'est à l'adolescence qu'elle s'était découvert une vocation pour aider les sans-abri. Elle avait malgré tout un défaut, être souvent en proie à la colère. Lorsqu'elle était plus jeune, la table du dîner se transformait en tribune pour ses diatribes sur les problèmes sociaux. Devenue adulte, elle avait décidé de consacrer tout son temps à tâcher de les résoudre. S'il fallait retenir une chose au sujet de Timmy Parker, c'était qu'elle ne baissait jamais les bras. Elle travaillait sans relâche pour les autres. Et lorsqu'elle avait enfin obtenu un logement pour les gens qui venaient la voir, elle ne les abandonnait pas. Car une fois qu'ils se retrouvaient isolés dans les minuscules studios qu'on leur attribuait, privés du réseau d'entraide qu'ils avaient mis en place pour survivre dans la rue, la solitude, le désespoir et le suicide les guettaient bien souvent. Timmy regorgeait d'idées brillantes pour améliorer le système. Malheureusement, l'argent manquait et les équipes étaient clairsemées. Avec la crise économique, les programmes de lutte contre la pauvreté avaient subi des coupes budgétaires drastiques et les politiques faisaient la sourde oreille. Pour couronner le tout, l'aide des fondations privées s'était également réduite comme peau de chagrin. Par conséquent, Timmy avait l'impression d'écoper l'eau de l'océan avec un dé à coudre. Elle regardait, impuissante, les gens se noyer sous ses yeux. Il devait attendre au moins un an avant de pouvoir intégrer les programmes gratuits de désintoxication ou prétendre à un logement. Dans la rue, la vie était très difficile pour les femmes, et dans les foyers, elles étaient souvent victimes de violences. Chaque jour, Timmy croulait sous la paperasse. Elle passait son temps à remplir des formulaires de demande d'allocation ou d'obtention de cartes d'identité. Le sort des adolescents la touchait particulièrement, mais il était plus simple de les renvoyer vers les programmes municipaux pour la jeunesse qui existaient aux quatre coins de la ville. En outre, les jeunes avaient tendance à mieux s'en sortir dans la rue. À midi, Timmy avait déjà vu 6 personnes. Elle en attendait le double dans l'après-midi et quittait rarement le bureau avant 20 ou 21 heures. Parfois, elle restait jusqu'à minuit. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde. Son travail était toute sa vie. Lorsqu'elle était étudiante, Timmy avait vécu avec un homme qui l'avait trompée avec sa meilleure amie. Après cette mésaventure, elle avait été fiancée à un autre type qui lui avait également été infidèle. Au moins, celui-là avait-il eu l'élégance de ne pas choisir une femme de son entourage. Elle avait mis un terme à leur relation. Depuis, elle se consacrait corps et âme à son travail. Voilà 2 ans qu'elle n'était sortie avec personne. Elle disait souvent que les femmes de sa famille n'avaient pas de chance en amour. Sa sœur cadette, Juliette, avait un penchant maladif pour les pauvres types. Il vivait à ses crochets, abusait de sa douceur et de sa gentillesse, et finalement, après avoir obtenu d'elle tout ce qu'il pouvait, il la laissait tomber. Et Juliette était la seule personne à s'en étonner. Elle pleurait à chaudes larmes pendant des mois, avant de récidiver en tombant amoureuse du même genre de mauvais pion. Leur mère, Véronique, avait passé les 20 années qui avaient suivi son divorce à aimer et soutenir leur père. Ce bel homme pétri de charme était malheureusement un Casanova invétéré. Elle avait découvert qu'il l'avait trompée pendant toute la durée de leur mariage, lequel avait pris fin à cause d'un top modèle de 23 ans. Depuis, les belles filles avaient défilé dans sa vie, ce qui n'empêchait pas Véronique de lui trouver des excuses. « Vous connaissez votre père », avait-elle coutume de dire. Justement, Timmy ne le connaissait que trop bien. Elle n'avait d'ailleurs jamais été proche de lui. Selon elle, c'était un véritable bourreau des cœurs, un maître dans l'art de la séduction. Une réalité qui lui était insupportable, d'autant qu'elle avait pris conscience avec horreur que les hommes qu'elle fréquentait étaient de la même étoffe, sans jamais être aussi charmant et beau que son père. Elle en était arrivée à la conclusion que les hommes étaient tous les mêmes, des charmeurs, des êtres menteurs et volages qui abusaient des femmes. D'où sa méfiance à l'égard de tout individu de sexe masculin qui s'intéressait à elle. Sa mère et ses sœurs l'accusaient de détester les hommes en général. Elle se défendait en soulignant que son antipathie ne se portait que sur ceux d'entre eux qui mentaient et étaient infidèles, ceux-là justement à qui elle plaisait. Seule leur plus jeune sœur, Joy, échappait à ce triste sort. Elle avait toujours été la préférée de leur père, parce qu'elle était d'une beauté remarquable et ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Véronique, qui, à 52 ans, était encore très séduisante. Elles étaient dotées d'une épaisse chevelure brune, d'un teint de porcelaine et de magnifiques yeux violets. Joy était cependant plus grande que leur mère et avait fait du mannequinat quand elle était étudiante. Depuis qu'elle était en âge de parler, elle avait toujours mené leur père par le bout du nez et obtenu tout ce qu'elle voulait de lui. Mais Joy gardait ses distances avec sa famille. Elle était la plus indépendante du clan et maintenait également une saine distance entre elle et les hommes de sa vie. Sans doute était-ce pour elle une façon de se protéger. Elle choisissait des compagnons qui vivaient à l'autre bout du pays ou qui, comme elle, étaient absorbés par leur carrière. Ils semblaient tous l'adorer, mais n'étaient jamais à ses côtés. Timmy allait jusqu'à parler de malédiction familiale. D'après elle, leur père les avait condamnés à n'être attirés que par les mauvais numéros. Désormais, elle n'essayait même plus d'en trouver un bon. Dénicher un logement pour les sans-abri était bien plus important à ses yeux que trouver chaussures à son pied.